Now, ladies and gentlemen, this is Rappers.
Et
Roger Fringant.
Sans oublier.
Et Tom.
Et qui?
C'est moi, Tom.
C'est le nouveau?
Ouais, c'est le nouveau.
Le nouveau Egrovitch.
Voilà, pour les Grignoux ou Parzo Grignoux, tous les mercredis de 20h à peu près, s'il n'y a pas les boueux. C'est toujours les boueux qui nous foutent
les
dedans.
Les boueux nous ont mis dedans leur tournée, ils ont changé leurs horaires de tournée. Je dois avouer que ça nous a mis. Vous avez été un petit peu ballot parce que vous êtes parti avant moi et vous n'avez même pas pensé à emmener les clés.
Non, mais c'est vous qui les aviez. C'est vous le maître des clés qu'on voit à votre trousseau de
Master
clés.
Of Case.
J'ai pas envie de déformer la poche de mon blouson, en fait. D'avoir une.
Bref, une émission bourrée comme tous les mercredis. Vous l'avez remarqué, comme tous les mercredis. Et on embraye tout de suite par un petit dixo à programmation au Pissou.
Eh ben, ça va être Diego Palavas.
Un petit morceau tranquille. Vous nous flinguez pas la soirée.
Non, pas du
vous
salon de thé, la fin du monde.
La dernière de Yann en personne. Yann, quand même, qui est. Yann, le grand Yann
oui,
de Canal
B. Oui, qu'est-ce qu'il a?
Qui m'a dit, un morceau de salon de thé, ça va. Et deux. Celui, alors, et en plus, il a relevé la phrase à plume qui était, je me rappelle plus parce que je l'avais calé il y a 15 jours. Il a adoré. On est écouté, plume. Alors, essayez de faire des efforts.
On est écouté par les gens de Canal B, ça va.
Non, mais lui, c'est un permanent. Alors, on rigole pas avec les permanents.
Allez, c'est parti.
De se laisser insulter. Non, c'est pas si facile de toujours prendre à contre-pied. Non, c'est pas si facile de dégrafer ton corsage. Non, c'est pas si facile de mourir bien avant l'heure. Non, c'est pas si facile d'être viré, de l'assumer. Non, c'est pas si facile de me vautrir à tes pieds. Non, c'est pas si facile d'être un emmerdeur de première. Non, c'est pas si facile de vous faire vivre un enfer. Quand j'ai le blues du punk rocker, révolutionnaire. Pour mes amis, pour ma mère, malgré ma gueule et mes sapes, malgré mon tape, je du rap. J'attire les côtés pervers, l'excuse des prises régulières. Quand c'est tout droit dans ma cœur, tout se passe, c'est comme, oui, mais c'est comme quand.
Et voilà, comme j'ai coupé de prendre la main dans le sac.
En tout cas, cette fois-ci, point de musique de salon de thé avant la fin du monde, on écoutera un peu de rock'n'roll et ça fait plaisir. Une émission bourrée donc, puisque ce soir nous recevons Karine, bonsoir.
Bonsoir, mais je suis pas bourrée moi.
Non,
c'est l'émission, parce qu'on a peu de temps là.
Je tiens à le préciser.
Alors là, on est témoin, vous avez tourné la cristalline haute source, pas pour faire de la pub, en 6 fois 50 centilitres, tac. Et on n'a pas vu autre chose. Et nous recevons également Élodie. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Élodie, c'est pareil, tourne à la cristalline, autre source naturelle. Pas de problème. Donc nous précisons bien que c'est l'émission qui est bourrée et non pas nos invités. Vous êtes là parce que vous êtes toutes les deux. Alors, est-ce que je me gourre si je dis que vous êtes tous les deux membres d'une association qui s'appelle une association animaliste, c'est bien ça ?
Un collectif.
Alors mais dites-nous, alors avant que je dise des bêtises.
C'est presque pareil, sauf qu'on n'est pas déclaré en tant qu'association.
D'accord.
Mais on est collectif Rennais pour les animaux. On milite effectivement toutes les deux dans ce collectif. C'est un de nos passe-temps favoris. Voilà. Mais on ne se définit pas que comme ça, évidemment.
D'accord.
Parce qu'en cette période de Noël,
je voulais juste dire, ouais, justement, je vais vous laisser embrayer là-dessus, mais on vous a contacté, on avait trouvé un petit flyer qui parlait de comment des sévices imposés aux animaux dans les cirques, ménageries, etc., ambulantes. Et un petit flyer qui traînait à Rennes, comme ça. On a parlé avec Jean-Loup. Et puis, comme dit Jean-Loup, en ces périodes de Noël.
Oui, c'est vrai que c'est le sale temps pour les bestiaux, là entre le foie gras, la coquille Saint-Jacques, c'est vrai que
c'est un peu l'apocalypse.
C'est aussi, oui, vous pouvez être né au mois de janvier. Hein,
c'est
en
clair.
Spéciaux.
Si t'as une coquille, t'y passes. Là, c'est cru avec du citron.
Ou des poils, ou des plumes.
Si t'as des poils ou des plumes, c'est au four. Si tu as des espèces de pâtes comme des crevettes ou des crabes, si t'es crustacé, c'est bouilli. Et si t'es canard, on te fout une cirrhose du foie. Bref, effectivement, sale temps pour les bestioles. Est-ce que vous nous avez calé intégralement l'apocalypse des animaux, mon bon Tom?
Oui.
Dit-il en mangeant. Donc, combien de fois il faudra lui dire de ne pas parler en mangeant à la radio?
Mais vous me surprenez.
Est-ce que je mange, moi?
Il y a du gras partout, en plus.
Ah,
c'est dégueulasse.
Dieu, mon Dieu, nom de Dieu.
Non, mais il va boire, comme ça il mangera plus.
Voilà. Mais en tout cas.
Non, moi, je tourne à l'eau.
Et si aussi, vous, chers auditeurs, vous, comment dirais-je, la situation, on en parlait tout à l'heure, est-ce qu'on demande aux gens d'appeler ou pas? Pourquoi pas? Si vous aussi, vous avez des préoccupations en ce qui concerne ce qu'il va advenir de nombreuses de nos bestioles qui nous entourent entre le, aujourd'hui, quand il y en a déjà qui sont congelées, déjà. Et le 1er janvier, eh bien, vous nous téléphonez au 02 99 52 117 66 lorsqu'on parlera de ce sujet.
Voilà, vous pouvez le dire plus rapidement, le numéro, pour être sûr que les gens
retiennent. 02 99 52 117 66
voilà, et personne l'appelle.
Et Jean Bray, tiens, un petit disque que je vous dédicace, c'est bien normal parce que je l'ai extrait d'une compilation à vous, d'ailleurs, le top 12, je crois. Un truc
c'est vrai, le top 12.
Et je me disais, vous savez quand même qu'on a vaguement parlé de la fin du monde pour après-demain, enfin pour demain, ou je ne sais pas quoi.
Après-demain.
Il semblerait bien que, imaginons qu'ils aient raison, que ce soit la toute dernière émission. Et je me dis, tiens, avant qu'un putain de météorite...
C'est des martiens, si j'ai bien compris. Okay. Enfin, les postes. Qui doivent...
Bon, avant que des martiens nous pètent la gueule, écoutez un bon vieux morceau de punk rock. Ça me ferait bien plaisir. Super Sucker. Yes.
C'est parti. C'est pas parti. Oui, non, avec ses mains grasses. Vous avez les doigts pleins de gras. Non, comment voulez-vous avoir les...
C'est maintenant devenu une habitude, les grignoux ont en chaque début d'émission et chacun leur tour une rubrique personnelle.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
C'est ça Philou, t'as tout compris, c'est un petit peu entre le clin d'œil, le coup de gueule du moment, mais aussi le détail de la vie trépidante d'un grignoux.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
Maintenant, le problème va être de savoir qui a l'honneur d'ouvrir le micro aujourd'hui. Et ça, c'est pas facile.
Attendez, attends, tu me laisses parler, mais tu me laisses parler.
Ah, il est en train de me tirer par la violence, oh, et ça vous coûterait.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
Et oui, c'est ça la rubrique perso.
Allez, rubrique à Jean-Loup.
Eh oui, bah rubrique à Jean-Loup, bah ça tombe bien parce que j'ai quelque chose. Oui, c'est quoi ce...
Oui, il y a un
ah, il y a l'écho, c'est quoi? Voilà, allô, allô. C'est bon, on peut parler?
Il n'y a personne, il n'y a personne. Il n'y a personne au téléphone.
Qu'est-ce qui vous arrive?
Donc, il y a Roger qui a fait des manipulations derrière mon dos et du coup, ça résonne. Ouais, boum, boum, boum.
Mais oui, c'est comme il s'est en route, là.
On sait pas.
C'est moi, j'aurais dû voir à chaque fois, je ne mettrais pas ce
bah, voilà. Il savait que c'était la rubrique à Jean-Loup et évidemment, il trouve le moyen de la saloper. Et justement, bah,
Je vous entends plus.
Et Jean-Loup, il n'est pas arrivé les mains vides parce que grâce à son camarade Grovitch, dans sa hotte de Noël, et sur les conseils de Jean-Loup, on a quelque chose à vous offrir. Allez-y Grovitch, parce que c'est quand même vous, oui, sur l'idée de Jean-Loup qu'il a
sur l'idée de Jean-Loup,
réalisé.
Sur une demande des gars.
Sur une excellente idée
sur
de Jean-Loup.
Sur une excellente idée de Jean-Loup, maintenant vous pouvez avoir l'application donc pour Android des grignoux.
Alors c'est-à-dire, expliquez-nous.
Ah, bah, alors vous pouvez maintenant sur votre téléphone directement lire les articles de toutes les émissions. Et dans pas longtemps, on pourra en plus de ça podcaster directement sur le téléphone sans passer par iTunes et tout ça, direct avec l'application. Et l'information des nouvelles émissions à chaque fois, quoi. Quand et ça commence et tout.
Par contre, ce que j'aime pas, c'est dans pas longtemps.
Dans pas longtemps. Bah, c'est peut-être la fin du monde, donc je me suis pas trop investi non plus.
<C'est vrai.
rire> Mais si je passe la fin du monde, il y aura la suite.
Et ça coûte combien? Ça va coûter la peau des fesses. Ah bah,
en fait, au départ, on avait quand même pensé par rapport à la qualité du contenu, surtout. On avait pensé la mettre très chère, mais après, vu que c'est Noël, on l'a mise à gratuit.
Gratuit, alors. Donc, c'est-à-dire
gratuit,
que si on va sur Play Store pour pas faire de pub,
voilà. Bah, du coup, on l'a.
Taper les grignoux. Hop, l'application
s'installe
directement sur votre smartphone, là.
C'est ça.
C'est dingue.
On peut réécouter toutes les émissions.
Pour l'instant, on peut pas encore.
Non, mais bientôt, il est dit.
Bientôt.
Vous écoutez pas, vous êtes pas attentif par rapport à ça.
Ça m'intéresse. Parce que vous êtes là à me vanter de nouveaux gadgets électroniques, sauf que là, en fait, c'est un catalogue. C'est juste un putain de catalogue.
Non, parce qu'on peut justement retomber sur le site. Par rapport, moi, j'ai eu la première version brute de pomme, voilà. Et j'étais très content.
Yes.
Vous vous souvenez quand vous faisiez croire, oh, c'était moi qui étais le premier ou le dernier, la semaine dernière, à tourner des disques. Hop, il suffisait d'appuyer sur l'application pour prouver par A plus B que vous mentiez comme un effronté.
Donc, ça veut dire, parce que je connais pas grand chose cette histoire, c'est qu'on va avoir une icône comme tous les vrais trucs.
Voilà.
Vachement balèze.
À part vous.
Il y a le beau logo des grignoux qui apparaît sur votre téléphone portable. Et rien que ça, déjà, ça vaut déjà de l'or.
Ah, ça, c'est balèze.
À part vous, qui avez un téléphone,
de designer russe.
Ouais,
j'ai un téléphone russe 70, qui marche très bien, que je recharge une fois tous les 6 mois. Et c'est très bien comme ça.
C'est par contre votre batterie de 10 kilos, hein. Je vous dis, au bout d'un moment, on va peut-être...
Du moment que vous la mettez pas dans le puits.
Oui, mais c'est moi qui la porte,
là. Puits ou l'eau, que de l'eau que vous buvez, il n'y a pas de problème.
Donc, sur Android,
sur Android.
Play Store, les grignoux, hop, et vous l'avez,
exactement.
C'est gratuit,
c'est
jusqu'à...
Gratuit,
mais profitez-en parce que...
Ah, ça deviendra peut-être payant après la fin du monde, parce que si du coup on passe la fin du monde, on va peut-être la mettre payante, hein,
bah,
ouais,
les soirs. Du coup, ouais, je sens que je me suis entraîné pour la fin du monde. Allez Roger, vous paffiez, piaffez d'impatience, je vous vois avec vos petits articles, vos petits carnets, et même un grand carnet géant qui s'appelle un classeur,
ouais,
pour vous dire.
Tout, j'ai tout. La retraite, vous avez envie de parler de la retraite dans cette veille de
bah,
Noël?
Ça arrive, qu'on commence à côté
recule,
des années.
Ça recule, deux ans. D'après le journal Les Échos, qui est un petit peu ce qu'est la Bible, comment dirais-je, aux croyants catholiques, chrétiens et de toutes églises confondues, d'après le journal Les Échos, la réforme de 2008, qu'on nous avait dit qu'elle était urgente, parce que celle de 2003, qu'on aurait dû refaire en 2012, mais qu'on a fait quand même en 2008, parce que celle de 2003 avait été inefficace. Bref, on nous en a pété deux, 2003 à 2008, et on nous dit qu'en 2008, que c'était tranquille. Eh ben non. On calcule à trois. Trois bonnes années de plus, mon bon Jean-Loup, c'est le minimum que vous pourriez faire pour soutenir la caisse.
Pourquoi on ne remet pas les paquets de cigarettes à 1 €, le demi dans les bistrots à 50 centimes d'euros? Et là, je peux vous dire que là, la retraite...
Et qu'on pète les phares des voitures pour qu'il y ait encore plus d'accidents sur la route. Ouais, mais ça plomberait le...
Qu'on oblige les voitures à rouler les phares éteints la nuit.
Ouais, mais ça
je peux vous dire que le déficit de la... Et ça coûtera pas un centime.
Si, parce que ça plombera le budget sécu. Il y aura des morts, des accidents, ça coûtera quand même des sous. Ouais, c'est non, mais c'est on peut coûte. Quand même rappeler aussi que c'est à qui c'est qui écrit cet article dans les Échos. C'est un obscur connard qui, du haut de ses 65 ans, pond une chronique ou une évaluation économique comme moi je vais aux chiottes et qui se permet de dire du haut de son travail par lequel on a effectivement on n'a pas l'impression il n'a pas l'impression de son âge.
C'est quand même quelqu'un qui a fait des études,
oh,
monsieur.
Oui, c'est sûr. Pour faire travailler les autres quand on reste assis sur son cul bien au chaud, effectivement là-dessus il n'y a pas de problème. C'est pas pour faire Montrouge puisque notre représentante du POI est là ce soir, mais quand même, je dirais. Mais qu'il y a quelque part des abus et que ce n'est pas en faisant travailler les seniors, comme ils disent, au-delà de l'âge, quand on sait que passer 50 balais, de toute façon, vous serez embauché nulle part, en tout cas pas au salaire que vous prétendez pouvoir gagner. Il serait quand même bon qu'on rappelle qu'il y a aussi des jeunes derrière et que ça serait peut-être bien de leur laisser la place, tout simplement, et fermer la gueule aux connards des Échos, ça nous ferait des vacances.
L'Écho, c'est pas de gauche, hein.
Ah, c'est pas véritablement.
Non, mais on a un gouvernement socialiste, Roger.
Mais bon, ça me fait flipper.
Ils vont pas faire
parce
ça, quand même.
Des fois, François Hollande lirait les Échos, allez savoir. UMP, si un truc plus rigolo, tiens, plus léger, Valérie Pécresse, qui reconnaît qu'à travers cette élection, ils ont fait l'apprentissage de la démocratie. Alors, c'est bien, parce que du coup, c'est quand même un parti qui se présente au suffrage universel depuis des années, qui ont quand même eu deux présidents à suivre, un qui a fait deux mandats, un autre qui a fait un mandat, Dieu merci. Et ces gens-là découvrent que au gré d'une bête élection interne, hein, qui somme toute ne représentait pas grand monde en termes d'électeurs, ont fait l'apprentissage de la démocratie, et elle précise même c'est quelque chose de difficile. Et ben voilà, on est rassuré sur les penchants démocratiques de l'UMP. C'est assez surprenant.
Valérie. Et des élections reportées en septembre 2013. Hein, on a l'impression d'être une république bananière. Bon, on attend un an, le temps qu'un chef se dégage par rapport à ça.
Armons les instits aux États-Unis, ça vous dit quelque chose?
Bah, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Finalement, en fait, quand on dit, écoutez, s'il y a eu un instit qui avait été armé, il aurait pu arrêter le tueur au bout de la 17e ou 18e victime, et il aurait, c'est vrai que c'est pas con, quand même, enfin, qu'on ait réfléchi à ce niveau-là.
Mais alors, c'est vrai que, sauf qu'il faut quand même rappeler que le tueur en question, quels que soient les motifs pour lesquels il agit, quelque part, on s'en fout complètement. Le problème, c'est qu'il y a quand même une chose simple. C'est, si on a accès à certains équipements, je dirais, un petit peu extrêmes, eh ben, effectivement, on peut faire de gros dégâts. Et je peux vous assurer que si ce mec, ce couillon-là avait eu qu'un couteau de chasse, bon, peut-être qu'effectivement, il aurait pu commettre quelques abominations, mais ça n'aurait peut-être pas été aussi loin que ça a été aujourd'hui. Et du coup, vous me rappeliez justement, on parlait de ça au briefing, que les ventes d'armes automatiques, des armes de guerre avaient justement connu un boom après ces événements-là, soit parce que les parents voulaient acheter des armes pour histoire de surveiller leurs gosses pour aller les amener à l'école, soit parce qu'ils se sont dit on va les acheter parce que ça va peut-être être enfin interdit. Alors pourquoi c'est pas interdit? C'est parce que c'est dans la Constitution américaine. Je crois que c'est le deuxième amendement.
Bah, est-ce que c'est dans la Constitution? Qu'est-ce qui est marqué précisément?
Il y a la Constitution aux États-Unis et il y a les amendements, c'est-à-dire des choses qui ont été ajoutées en plus. Et parmi ces amendements, il y a celui justement de pouvoir avoir accès à des moyens de défense, non pas pour étriper son voisin ou massacrer une école primaire, mais pour lutter contre un État qui deviendrait tyrannique. Parce que dans la Constitution américaine, il y a un truc qui est assez rigolo. Jefferson était loin d'être un couillon. Et ce Jefferson, qui est un des pères de la Constitution américaine, disait que, à la limite, une Constitution n'est bonne que pour un certain moment. Au bout d'un certain temps, effectivement, les conditions dans lesquelles la Constitution a été réalisée ne correspondent plus au temps présent, voyez. Donc du coup, il imaginait lui un petit peu une constitution qui serait un peu évolutive. C'est pas comme ça que ça s'est passé, mais on a prévu un amendement qui serait que si la constitution n'évolue pas trop vite, on peut la faire évoluer à coup de fusil mitrailleur.
Mais non, mais c'est vrai que quand il y a les vilains indiens qui attaquaient les gentils pionniers, ça pouvait se justifier. Mais aujourd'hui, il y a les vilains mexicains.
Mais là, celui-là, il est même pas mexicain, il est pas black, un dingo de 22 ans armé avec une arme de guerre. Puis voilà ce que ça peut faire. 4 jours de deuil national, voilà sûrement qui va réconforter les parents. Et puis on va voir Obama. Putain, là, c'est son dernier mandat. On va voir si effectivement il peut y aller. Merde. Enfin. Et tiens, allez, un petit truc plus rigolo pour finir, français, typiquement français. Valéry Giscard d'Estaing. Savez-vous que Valéry Giscard d'Estaing, tous les jours, envoyer aux gendarmes de Matignon la visite du chauffeur de Valéry Giscard d'Estaing? En effet, l'ancien président de la République y fait déposer son courrier pour envoi par le service postal du Premier ministre. Ces mêmes personnes qui découvrent la démocratie, qui nous disent qu'il y a des abus quand les gens abusent des droits sociaux et qui font depuis, il a pris une tôle en 81, on est en 2012, ça fait combien de temps? Allez, passez-moi le boulier, vous qui êtes matheux, ça vient 30 ans.
30 ans que cet enfoiré-là fait envoyer tout son courrier par le biais des impôts de la République. C'est pas joli, ça?
Vous êtes jaloux?
C'est dans l'Express, en plus, c'est marrant.
Ouais, et pourquoi vous commencerez pas? Vous avez vu que le maire de Rennes, comment il s'appelle déjà? Edmond Hervé.
De Lavaux,
c'est comme
et
ça.
C'est marrant, je me rappelle de son nom maintenant qu'il a dit qu'il allait arrêter.
Bah ouais, c'est rageant. Donc il faut trouver un successeur, de Lavaux.
De Lavoie.
De Lavoie, exactement. Ah, ils cherchent le maire de Saint-Jacques et pour l'accord actuel. C'est... Mais bon, ils ont pris leur temps pour.
Mais bon,
pour...
on va quand même pas non plus pigner parce qu'effectivement, un élu décide de raccrocher. Et si effectivement il y avait plus, un peu plus de turnover, un peu plus de comment de parité et aussi de non, enfin de non renouvellement et de non cumul, peut-être qu'effectivement la démocratie en sortirait un petit peu rassénérée.
Une petite pause avec un petit disque de ma programmation. Yes. Allez, c'est parti avec Corleone. Ouais, rock. Je sais pas ce qui me prend ces temps-ci.
C'est
je
quoi
sais pas, mauvaise influence. Corleone. Après ce morceau de Corleone, on continue avec Roger qui nous parlait d'hommes battus. Arrête de conneries.
Alors, des hommes battus. Alors, c'est marrant parce que j'en parlais un petit peu avec notre invité tout à l'heure, pendant que vous étiez parti.
Je sais pas. La preuve, j'écoutais. Bon. J'ai suivi toute la conversation, là.
Vous étiez parti au bistrot. Bref, en 2010, comment dirais-je, 16 000 femmes.
Oui.
Et 3500 hommes ont porté plainte pour violence conjugale. 3500 hommes, quand même.
Eh, c'est pas rien, mais ça fait un rapport de quoi? De 1 à 5?
3500 hommes, 24 hommes ont été tués sous les coups de leurs épouses.
Sur les coups de...
En 2012.
Oh, c'est une horreur, ça faut qu'on en parle. Ça aurait été un débat national qui était sans
ouvrir. Et ce type de violence, la clé de Ouest-France le met en gras. D'ailleurs, comme notre invité peut témoigner. Ce type de violence est un phénomène sous-estimé, voire nié. Eh oui. Et la présidente de l'association des hommes battus est une femme, d'ailleurs, c'est marrant. Et cette femme-là dit en fait que le problème, c'est que c'est un problème de mentalité. Et quand vous êtes battu en tant qu'homme, vous n'osez pas le dire.
Mais est-ce que c'est les mêmes violences physiques ou est-ce qu'on parle plus de violences psychologiques chez les hommes?
Tout à fait, ouais.
Arrête de picoler, t'es canule.
Comme chez les grignoux, on dit qu'effectivement, comme le dit l'article d'ailleurs, que les femmes éduquées, souvent indépendantes financièrement, seraient mieux armées pour faire valoir leurs outils, imposer leurs choix et parfois tyranniser leurs conjoints. Moralité, il faut qu'il faire quitter les filles à l'école à l'âge de 12 ans si vous voulez pas qu'elles vous tyrannisent.
Ouais, mais là l'égalité homme-femme n'est pas préservée, enfin n'est pas respectée là. Il ferait 16 000, c'est ça vous parlez de?
Non non, pas 16 000, 3 500 hommes par contre pour 16 000 femmes.
Et vous avez vu les femmes aussi, du coup, qui ont voulu l'égalité. Et qu'est-ce qui va vous arriver? Parce qu'on en a deux en face de nous avec votre assurance de permis de conduire. Eh ben, vous allez payer plus cher. Je sais pas si vous êtes au courant de cette nouvelle-là, parce que beaucoup d'assurances, en fait, bah, comme les femmes, statistiquement, ont moins d'accidents que les hommes, eh ben, ils ont décidé de faire payer des assurances moins chères aux femmes, ce qui me semble logique. Sauf qu'à vouloir trop l'égalité, eh ben, au bout d'un moment, bah, certains se sont dit, mais c'est pas équivalent. Et hop, et du coup, il y a des nanas qui payaient leur assurance 30% moins cher à cause de leur bonne conduite, eh ben, vont payer 30% plus cher dans les mois à venir. Ça vous fait rire, vous.
Ouais, parce que je vous laisse cramer, parce que je vois notre invité qui dit rien, qui n'en pense pas moi.
Non, mais là, moi, il y a quelque chose qui n'allait pas entre homme-femme et qui a été rétabli.
Ben voilà, c'est bien. Est-ce que vous voulez un petit article sur... Il faudrait que ce qui serait un truc qui serait bien, quand même, ça serait qu'on fasse un petit compteur EPR. Vous savez quand même qu'au lieu des 3 milliards prévus, on en est à 8 milliards 5, et ça, c'est sans compter sur nos amis italiens qui ont décidé de se retirer du projet parce qu'ils ont commencé à sentir le kilomètre un peu hors de prix. Et là où ça devient véritablement une usine à gaz, alors que ça n'en était pas une à l'origine, parce que ça s'agissait quand même une centrale nucléaire...
Ça allait révolutionner.
Ouais, ça devait révolutionner. Et ça me rappelle un peu Super Phoenix, un vieux projet des années 70 qui n'a jamais marché et que le gouvernement Jospin a fini d'assassiner lorsqu'il a pris le pouvoir, lorsqu'il a été nommé Premier ministre en 97.
Ça nous rajeunit pas, on y était.
En 97, eh bien, il a fini d'assassiner Super Phoenix et j'ai bien peur que l'EPR finisse par suivre le même choix, sauf que ça aura coûté quand même une putain de fortune et tout ça pour avoir un prix de kilowattheure dont si on le compare aux putains d'éoliennes qu'on aurait mis au large de la côte de Cherbourg, je pense que ça aurait pas coûté plus cher, loin s'en faut. Un petit lit.
Ah oui, non, mais là, pour une fois qu'on vous coupe la chic, c'est assez...
C'est moi qui vous coupe la chic.
Allez donc, petite dernière, je vous vois furter avec vos petits doigts.
Est-ce que je vous avais parlé des réactions d'Israël à l'entrée de la Palestine à l'ONU? C'est pas gay, ça?
Ouais, comme quoi, de toute façon, il ne reconnaîtrait pas l'État, c'est ça?
Ouais, et puis surtout... Ouais. En plus, non, mais il y a un truc qui est un peu... on parle de terrorisme, etc. Oui, ils sont chiants, ils se font péter dans les supermarchés, ils se font péter dans le bus, etc. Mais il y a des trucs quand même que l'État d'Israël pratique, parce que vous savez, c'est une sorte de terrorisme plus soft dont on parle moins. À savoir, bah tiens, les droits de douane des produits que les Palestiniens exportent vers l'étranger, normalement ils doivent toucher toucher des droits de douane. Excusez-moi, l'inverse, quand des marchandises étrangères arrivent en Palestine, eh bien ces droits de douane, l'État d'Israël décide de purement et simplement les confisquer. Point. Bah vous les aurez pas, vous l'avez dans le cul, Lulu. Et si vous venez vous péter la gueule dans sa bus, on va vous exoniser la gueule. Sympa.
Et cette constitution égyptienne, ça va vous inquiéter quand même, non? Ça va, les frères musulmans qui prennent leur
main. Moi, je dis que, il y a quand même quelque chose qui est un peu rassurant, parce qu'il y a eu du bourrage d'urne, ça veut donc dire que le pouvoir avait peur.
C'est l'UMP, quoi, c'est ça, en fait.
C'est l'UMP qui découvre la démocratie. Et finalement, le score, moi, j'avais parfois, effectivement, je fais du Jean-Louis, mais je suis un petit peu pessimiste.
C'est les villes qui ont voté, qui sont censément être plus progressives.
Ouais, mais comment dire, il y a véritablement des quartiers, même plus conservateurs, j'allais dire plus religieux, où effectivement, le oui pour la Constitution n'était pas aussi majoritaire que ça. Et c'est quelque part rassurant, et on peut se dire qu'effectivement, vous savez, je pense quand même que l'Égypte connaît en ce moment une révolution. On a connu la terreur, on a connu, nous aussi, les événements qui ont été tragiques. Et, laissons aussi quelque part aux Égyptiens, il faudra faire du boulot d'Égyptiens, et puis j'espère que effectivement ça tombera pas entre d'autres boudins. Mais
vous êtes d'un optimisme remarquable. Ouais, parce que c'est les campagnes qui votent ce week-end.
Ouais, mais bon, comment dirais-je, vous savez, il y a ce qu'on entend par les médias, et il y a aussi d'autres choses, quand on lit d'autres documents, on s'aperçoit que, par exemple, la cohabitation entre ceux qui seraient plus en faveur des frères musulmans et des autres n'est pas forcément aussi mauvaise que ça. Il y a aussi des possibilités, et on peut. On peut s'espérer à rêver, quoi. Ouais, après tout, c'est Noël.
Je sens qu'il y aurait une fièvre afteuse.
En Égypte.
Vous savez, les chrétiens là, qui vivent avec le porc et qu'ils ont massacré. Bon, bref, allez, un petit disque, c'est Noël, comme vous dites.
Ouais, vous voyez, tout en noir. Un petit disque à qui?
Encore à moi, un animal comme toi, de Justine.
Qu'est-ce qui vous arrive? Encore à vous?
Mais Tom ne prépare plus rien, donc il met du gras juste sur la table et puis il fait plus rien.
Il met du gras.
C'est parti.
Roger, Jean-Loup et Tintin sont en exploration dans la jungle. Aïe, je m'ai encore fait piquer par une bête, Oh, ça c'était Roger, faut dire, il se blesse tout le temps, et en plus il est vachement douillet. Puis y a pas de pharmacie dans la jungle. Eh les gars, vous avez pas entendu quelque chose? Bah non, quoi. Bah une sorte de grognement, bah non. Jean-Loup, il entend des bruits tout le temps. Ouais, bah je sais pas si on va le trouver, le pituit argenté, hein, ce célèbre animal disparu qu'on devient riche si on en trouve un exemplaire. C'est la rubrique Les Animaux.
Voilà, eh bien, nous sommes désormais en compagnie d'Élodie, bonsoir.
Bonsoir.
Et de Karine, bonsoir. Bonsoir. Rebonsoir. Donc, on reprécise pour ceux qui auraient pris cette émission en cours, nous sommes en compagnie de ces deux charmantes jeunes filles, puisque en cette veille de Noël et de grande apocalypse animale, on se disait que après avoir d'ailleurs trouvé un flyer comment dans lequel vous dénonciez les conditions faites aux animaux dans les cirques et les ménageries, etc., on se disait que ce serait peut-être pas sot de parler un petit peu de la condition animale au ce moment, en ce moment où on s'apprête, en plus de fêter la venue au monde du Christ, de se livrer à une gigantesque apocalypse animale.
Ouais, et puis,
ne tuera point.
Ouais, alors là,
et que... je parle pas du marron aussi, parce que c'est bon, le temps pour les marrons là.
Peut-être qu'un jour qu'on découvrira les fruits et les légumes ont une âme, et alors là on aura des problèmes.
Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter le collectif dont vous faites partie
Collectif Rennais pour les animaux, ouais. Je rappelle.
Alors le collectif Rennais pour les animaux a un peu plus d'une année d'existence. Il regroupe des membres militants qui sont des citoyens avant tout. Ce n'est pas une association, c'est un collectif et on est sur un fonctionnement le plus démocratique et le plus égalitaire possible. Et nous organisons régulièrement des actions sur Rennes et alentour pour revendiquer l'attribution, la reconnaissance du droit, d'un droit pour les animaux. Et on dénonce également toutes sortes de discrimination et d'exploitation des animaux.
Et vous êtes tombé comment dedans
Dans l'animalisme, ouais. Ou en tout cas dans cette volonté de défendre les animaux.
Élodie, ouais.
Alors moi, ça fait pas très longtemps donc que je suis tombée dedans, on va dire. J'ai commencé par devenir végétarienne, en fait, pour les animaux, par rapport à leurs conditions de vie. Et en fait, en me renseignant, après, j'ai découvert tout un courant de pensée philosophique morale, de philosophie morale, en fait, tout un courant de pensée qui m'a fait prendre conscience du fait qu'on n'avait pas de preuve de la supériorité humaine sur les autres animaux.
Et c'est vrai, quand Roger m'a parlé justement de ce tract, je vais pas être gentil avec ce que je vais dire, mais tout de suite j'ai dit à Roger, ouh, c'est une secte entre guillemets.
C'est la réaction que j'ai eue moi. Alors je suis plus une jeune fille, merci quand même pour tout à l'heure, mais j'ai 39 ans.
Par rapport à Roger, vous serez toujours une jeune fille, ça c'est sûr.
Et à 30 ans, j'étais à Paris.
Vous êtes une jeune fille, je vous rappelle mon âge.
Non, à 39 ans.
Ah bah, et alors.
Ah, bon,
ça ne change rien.
Merci.
Ça ne change rien.
Mais il y a 9 ans, j'ai été interpellée par un stand DDA, droit des animaux. À Paris, je sortais d'un McDonald's et j'ai caché mon burger dans la poche de mon imper parce que j'ai vu tout de suite une vidéo de veau conduit à l'abattoir et évidemment j'ai senti qu'il y avait embrouille sur.
Il n'y a pas de veau au McDonald's, hein, là, ça peut vous rassurer.
Ah oui, mais il y a des produits laitiers, donc il y a forcément des veaux aussi. Et donc je me suis approchée et j'ai discuté. Et ma réaction a été assez épidermique face à un discours que je n'ai pas voulu entendre, qui m'a choquée, qui était violent parce que la réalité l'est et la remise en question est souvent douloureuse. Et moi aussi, ça m'a surpris. Mmh. Et puis j'ai fait mon cheminement, mais comme Élodie, du végétarisme au végétalisme et au véganisme, puisque c'est plus large que la question alimentaire.
Véganisme, vous dites
Oui, véganisme.
On reviendra là-dessus tout à l'heure.
Oui.
Alors justement, une autre question, donc c'est là que vous vous êtes rencontrés toutes les deux, donc à ce collectif Rennais pour les animaux, CRA.
CRPA.
CRPA, je note.
On l'a monté ensemble, en fait.
D'accord, à toutes les deux, vous êtes donc les fondatrices de ce groupe.
Avec d'autres personnes.
D'accord. Et alors, du coup, est-ce que vous me disiez tout à l'heure, vous n'avez pas encore véritablement le statut d'une association encore, si ?
On y a pensé, mais les avantages ne sont pas forcément incités. L'essentiel, c'est d'être regroupés autour d'une cause commune et de porter un discours similaire. Et ça, on peut le faire au sein d'un collectif.
D'accord. Alors, c'est comment... Donc, je reviens sur le point essentiel, qui est donc la reconnaissance d'un droit pour les animaux. Ça nous remonte justement, on parlait tout à l'heure de l'animalisme quand on préparait cette émission. L'animalisme, c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau en fait. Élodie, comment vous êtes un peu la spécialiste justement de ce phénomène. C'est quoi l'animalisme en clair?
L'animalisme, c'est en fait la revendication, la demande de droits fondamentaux pour les animaux au même titre que les droits humains. Donc bien sûr, on réclame pas le droit de vote pour les animaux et tout ça, mais au moins le droit à la vie.
Les Arabes n'auront pas de l'avoir, je veux dire.
Et les femmes ont eu du mal.
Les cochons.
Donc le droit à la vie, à être libre, à vivre libre, à ne pas être emprisonné, à ne pas être appropriable, à ne pas être commercialisable. Enfin, les droits fondamentaux... comme tout individu, en fait.
Considéré et défendu en tant qu'individu.
Donc, du coup, l'animalisme, comment ça conduit de facto au végétarisme?
Alors,
si on ne peut pas ni commercer, ni exploiter les animaux...
Est-ce que je peux être un végétaliste qui mange de la viande?
Végétaliste, non.
Un animaliste, pardon, qui mange de la viande?
A priori, non, puisque si vous respectez les animaux en tant qu'individus, vous ne consommez pas vos semblables.
Alors,
Le végétalisme est au quotidien une pratique qui découle d'une position intellectuelle, philosophique et morale animaliste. Bien qu'il y ait des gens qui soient végétariens pour d'autres raisons, par exemple pour des questions de santé ou de faim dans le monde ou d'écologie, nous, on met en priorité l'argument éthique de respect d'un être vivant, de l'animal, qui est notre congénère.
Alors, l'animalisme, comment, en termes d'histoire, quels sont les penseurs de l'animalisme? Il y a des personnes qui sont mises en avant, comment pour défendre cette position-là?
Alors, en fait, la question d'accorder des droits ou non aux animaux, elle s'est posée très très tôt dans l'histoire. Plutarque, par exemple, au 1er siècle, se posait déjà la question de s'il fallait ou pas manger les animaux, est-ce que c'était moral. Et le mouvement animaliste tel qu'on le connaît aujourd'hui, il a surtout débuté avec un livre de Peter Singer, qui est paru en 1975, qui s'appelle... Je vais le retrouver. La libération animale.
D'accord.
Donc, même si le concept de spécisme avait déjà été développé avant, c'est là où il a vraiment été développé. En fait, Peter Singer, donc, c'était un philosophe australien qui faisait ses études aux États-Unis et qui s'est intéressé donc à l'égalité, parce que c'était l'époque de la révolution égalitaire, les femmes, les noirs, etc. Et donc, il s'est vraiment intéressé à la notion d'égalité et c'est là, en fait, qu'il s'est rendu compte que finalement, la notion d'égalité, elle pouvait être très très forte si on l'appliquait à l'ensemble des individus sensibles, donc les animaux.
D'accord. Et ce concept de spécisme là, dont vous parlez tout à l'heure, c'est quoi exactement? J'ai entendu parler, mais j'ai peur d'avoir une mauvaise interprétation.
Alors,
quoi le spécisme?
Pour compléter, je vais répondre à votre question, et pour compléter ce qu'a dit Élodie sur la notion de spécisme, ça a été, alors, pour les puristes, ça a été introduit en 1970 par le Britannique Richard Ryder et donc repris en 1975 par le philosophe utilitariste Peter Singer qu'Élodie a cité. Et pour la définition assez précise, l'espèce à laquelle appartient un être n'est pas un critère moral pertinent pour décider de la manière dont on doit le traiter et des droits qu'on lui accorde. Donc pas de différence par l'espèce. Et quand on dit spécisme, on pense assez facilement donc à racisme, sexisme, ouais. Toutes ces formes de discrimination qui excluent sur des critères qui ne sont pas intelligents, en fait.
Le spécisme, ça a donc une connotation négative. Si on vous accuse d'être spéciste, c'est-à-dire que vous dites le canard, c'est fait pour être engraissé, l'huître, c'est fait pour être pour finir éventré, etc.
Oui.
C'est ça.
Oui.
D'accord.
On s'écoute un pilier, est-ce que j'aurais deux, trois questions à poser? C'est parti, programmation. On ne sait pas qui.
Non, mais programmation, on sait à qui, c'est un Roger. On va passer les Lolitos. Je voulais le passer une fois, deux fois. À chaque fois, je n'ai pas réussi à le passer, je sais pourquoi. Mais mon excellent ami, l'Irlandais, m'a gratifié d'une jolie compilation de Noël grâce à laquelle je peux enfin programmer Lolito.
C'est là, on la reconnaît facilement, le niveau n'est pas bon, en général.
Ouais, mais
non, c'est vrai, même Grovitch l'a dit.
Jaloux ou mauvais?
Allez, c'est parti.
Voilà, après cet excellent morceau de la non moins excellente programmation à Roger, comme d'habitude.
Les Lolitos.
Les Lolitos.
Et qui viennent
de Lille.
Ah, mais parce que je vous dis,
non, parce que c'est noté. Parce que mon bon ami l'Irlandais me note tout, je sais tout. Et puis voilà.
Le roi de la compression.
Le roi de la compression, vous êtes vraiment un mauvais. Nous sommes toujours en compagnie de Karine et Elodie. Nous parlons justement, nous venions de définir les concepts de spécisme, c'est-à-dire que c'est de considérer qu'effectivement on puisse se comporter de manière différente selon que l'on soit un homme vis-à-vis des escargots, des belettes, des rats, enfin de tout ce qui nous entoure, tous les êtres vivants qui nous entourent, et du coup on peut leur infliger ce que l'on veut puisqu'on le considère qu'ils n'appartiennent pas à notre espèce. C'est bien,
c'est
ça,
c'est bien facile,
c'est et ça, oui, hein,
ça nous arrange.
D'accord.
Mais est-ce que ça va pas à l'encontre du monde animal lui-même? Parce que pendant la pause musicale, on parlait des atrocités que certains ont vues, les abattoirs, ce genre de choses.
Ouais, les petits veaux, un petit veau qui marche dans, vous savez, du sang jusqu'au genou et puis qui regarde. Oh putain, j'ai vu
ça. Et qui sont simplement arrachés à leur mère, à peine nés.
Et par contre, moi, j'ai vu des documentaires animaliers. Waouh! Ça vaut les abattoirs sans problème. Je veux dire, ne serait-ce que la relation entre le prédateur et et la proie, et même entre espèces, où c'est une histoire vraiment de survie, où le plus fort doit tuer les plus faibles, tout simplement. Donc est-ce que ce mouvement de pensée ne va pas à l'inverse du monde naturel ou du monde...
Ça me rappelle un collègue qui, tout en mangeant son steak à la cantine, me parlait d'un reportage où la pauvre gazelle était cruellement assassinée par le lion.
Ah, c'est horrible.
Et il ne pouvait pas soutenir cette vision. Mais je pense que s'il avait été dans un abattoir, là, pour le coup, il aurait vraiment vu ce que vice et cruauté veulent dire. La nature, elle est cruelle, elle est sauvage, elle est dangereuse.
C'est une chanson, la fausse chanson que vous avez dit, Canel. Elle est sauvage. Je sais pas pourquoi. Excusez-moi. Excusez-moi.
Effectivement, il ne faut pas se leurrer. Si on était dans un environnement aussi risqué, avec autant de dangers qu'en pleine savane, moi, je reste pas à vouloir caresser la crinière du lion. Mais là, ce dont on parle, c'est que nous sommes quand même des agents moraux et qu'on est censé normalement prendre une distance avec tout ça, réfléchir à la question. Pourquoi exterminer chaque année des milliers et des milliers d'animaux alors qu'on n'en a pas besoin? On n'est pas dans cette urgence que la nature pourrait nous imposer dans certains environnements.
Il y a un truc, comment dire, il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais bien revenir. Du coup, on vous disait en briefing, on va d'abord parler de trucs un peu généraux. Végétalisme, végétarisme, c'est quoi la différence exactement?
Alors, le végétarisme, en fait, c'est un régime alimentaire qui exclut la consommation d'animaux, qu'ils soient morts ou vivants, je le précise, parce que ça pourrait être le cas. Et le végétalisme, ça va au-delà du végétarisme, c'est comme un super végétarisme. C'est un régime alimentaire, ce qui exclut, bien entendu, la consommation d'animaux, mais également ses dérivés, comme la gélatine de porc, par exemple.
Puis vous avez mangé le frestagada.
De deux manières, non. Le sucre n'est pas un animal, Roger.
Oui, mais la gélatine. Dans la fraise, dans les ganoques, dans la guimauve, et tout ça, on trouve de la gélatine.
Et également les sous-produits, oui, effectivement, tels que les œufs, les laitages, le miel. Donc rien qui ne cautionne l'exploitation des animaux.
Ah, je reviens toujours à la question que je vous ai posée tout à l'heure. Est-ce que c'est pas contre nature? On est quand même des omnivores.
Ouais. Est-ce que l'organisme humain est fait pour... Parce que là, du coup, si vous êtes végétalienne, vous ne consommez pas de lait.
Non.
Il y a des carences.
Des laits végétaux.
Ouais, mais il y a des carences forcément.
Alors, est-ce qu'il y a des carences? Moi, je connais rien.
Oui,
alors c'est un. Moi, j'ai fait un bilan sanguin il y a 2 mois. C'est parfait.
Et ça fait combien de temps que vous êtes végétalienne?
1 an.
D'accord.
Bilan sanguin, c'est sur des normes qui seraient discutables aussi.
Et vous, Karine, vous êtes végétalienne ou toujours omnivore?
Alors, végétarienne pendant 3 ans et ensuite végétalienne. Et alors, je suis toujours une omnivore parce que l'omnivorisme, c'est une capacité. Donc, j'ai la faculté de consommer.
Mais vous ne le faites pas.
Mais je ne le fais pas par choix éthique. Et aussi, maintenant, c'est moins crucial pour moi, mais par choix de santé. Et par respect de l'environnement également.
Mais vous êtes une adulte, mais bon, il y a eu des cas, souvent des familles ou des parents végétaliens élevaient leurs gamins de cette même manière, les gamins ont besoin de lait, ont besoin de protéines animales, ont besoin de ce genre de choses, ou c'est carrément assassin comme démarche
De donner du lait de vache aux enfants, je suis d'accord, c'est assassin comme
mais
démarche.
Mais de les élever dans des conditions où souvent ces gamins-là souffrent de carences énormes, les hurlent justement.
Il y a des gens irresponsables partout, mais c'est vrai que ça a été monté en tête d'épingle parce qu'un couple qui ne faisait pas attention à la santé de ses enfants, mais c'est pas un exemple du tout à montrer. Maintenant, on sait que nous, enfin, quand même, c'est démontré depuis le temps, nous sommes des primates, frugivores. Donc on se rapproche plus des herbivores. Mmh. D'ailleurs, on a tous les attributs physiques pour le prouver. Et même si, enfin, au-delà de cette question scientifique où on a un régime, notre régime alimentaire adapté, c'est un régime végétalien. Donc on fait des entorses à notre justement nature profonde, parce qu'à un moment donné dans l'histoire, on s'est adapté à notre environnement et qu'on a dû aller chercher des ressources de nourriture autres, donc animales. Donc on est devenu à ce moment-là effectivement chasseurs, pêcheurs, cueilleurs. Mais notre nature, elle ne nous amène pas vers la consommation de viande ou de soupe ou de dérivés.
Le lait maternel, c'est pas un lait végétal, c'est un lait animal en fait.
C'est effectivement jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans, peut-être même vous pouvez être sevré avant. Donc vous consommez le lait maternel qui est d'ailleurs prévu pour vous, son enfant. Mmh. Il est vraiment adapté et il a tous les anticorps nécessaires pour que vous ayez un bon démarrage dans la vie. Donc comme nous sommes des mammifères, nous recevons le lait nourricier qui va nous permettre d'avoir nos défenses et de nous construire. En aucun cas, aller téter une vache, enfin franchement.
C'est quand même ça, c'est curieux, Jean-Loup. C'est quand même une discipline alimentaire. On a besoin de vitamines, on a besoin.
Ouais, vous savez, pour le lait, c'est assez curieux. J'ai découvert dans un article, d'une revue, qu'on ne consomme pas de lait depuis tant de temps que ça. Il y a des sociétés où on consomme très peu de lait, en Asie notamment, le lait, les yaourts, etc., les produits laitiers.
En fait, dans les pays où on vit le plus vieux, on consomme pas de viande en général et pas de produits laitiers.
Du poisson, souvent. Si on parle.
Oui, mais après, c'est à la marge. Je pense pas qu'il y ait tant que ça de bénéfices. Et enfin, si on parle de droits des animaux. À la rigueur, la santé, elle est secondaire.
Et pour le lait, je voulais en finir pour cette histoire-là, parce qu'en fait, on ne digérait pas le lait. On n'avait pas un organisme qui était fait pour digérer le lait.
En fait, dans l'organisme.
Il s'est passé un truc assez bizarre. Il n'y a pas très longtemps, 12 000 ans, un truc comme ça, mais très récemment, quelque part, aux yeux de l'histoire, qu'on a pu, casser cette fameuse caséine ou je ne sais pas quoi de lait, là, cette saloperie.
La lactose.
La lactose,
et
voilà.
Et on a une enzyme qui s'appelle lactase dans l'organisme et qui disparaît justement après, je crois que c'est 5 ou 6 ans. Ben bon, je suis pas nutritionniste non plus, mais il me semble que c'est ça. Et justement, il y a de plus en plus d'intolérance au lactose. Et c'est normal, parce que notre corps réagit, le lait d'une autre espèce que la nôtre, au-delà d'un certain âge, c'est très acidifiant, donc ça met en péril notre équilibre acido-basique. En plus,
on dit que ça donne du calcium quand même, le lait, par
alors contre. Justement, le problème, c'est que le peu de calcium qu'il y a de présent préservé malgré la pasteurisation, mélangé au pu des pies de vache et des fesses qui se trouvent dans le lait industriel, arrive dans notre organisme, et pour contrer justement cet équilibre acido-basique, les eaux libèrent du phosphore. Donc il y a des problèmes d'ostéoporose en plus qui se posent, et le phosphore, c'est ce qui aide le calcium, enfin c'est ce qui nous permet de fixer le calcium sur les os. Donc le fait de consommer justement du lait de vache par exemple nous empêche de bien fixer le calcium. Alors, sauf que l'industrie du lait nous prétend le faire.
C'est ce évidemment. Que dit justement pour les eaux solides, faut boire du lait. Quand on parle de l'ostéoporose, justement, on dit aux femmes d'un certain âge, buvez du lait,
qui a intérêt à dire ça,
des produits laitiers. Mais il y a peut-être des gens qui disent ils vendent des yaourts.
Voilà, devenu optimiste.
Mais est-ce que certains cas, c'est peut, je sais pas, le végétal végétalisme, en fait, est-ce que ça peut pas pousser justement à quelqu'un qui est végétalien, qui a un chat par exemple, à obliger son chat à manger des végétaux?
Alors
carrément dans le, parce que le chat n'est pas omnivore, autant que je sache.
Alors le chat, lui, en revanche, est un vrai carnivore. Il a tous les attributs et c'est son régime alimentaire. Dans la nature, il va consommer des souris, par exemple. Et Élodie et moi, on a des chats, on a discuté de ça et on est nombreux à se poser des questions d'ailleurs en tant que végane. Donc, il existe des croquettes végétaliennes pour ceux qui souhaitent le proposer à leurs animaux. Moi, c'est le pas que je n'ai pas fait encore, parce que ma nature n'est pas de consommer des animaux, la nature des chats, l'est. Mmh. Donc effectivement, c'est problématique parce que j'ai fait des sauvetages d'animaux qui étaient en détresse. Donc j'assume cette contradiction et cette dualité au sein de mon propre foyer. La seule viande qu'il y a, c'est pour les chats. Alors, peut-être laisser Élodie répondre
Enfin, moi, je
vous êtes passé de, du côté où vos chats, ils mangent votre chat, moi.
Non, mais je considère pas ça en termes de nature. C'est juste que j'ai essayé les croquettes végétaliennes qui ont tout ce qu'il faut pour les chats. Elles sont prévues pour. Ça permet de pas cautionner l'élevage industriel et tout. Et parce que vraiment, c'est pas bon. C'est des restes qui sont impropres à la consommation humaine. On mélange ça avec des céréales qui ont moisi et puis on donne ça aux animaux. C'est vraiment pas bon pour elles, mais elles aiment pas les croquettes végétaliennes. Mais si j'en trouve qu'elles aiment, j'en mangerai, je pense.
Alors, ça fait deux fois que vous utilisez le terme de véganisme ou de végan. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que c'est que ça ?
Oui, c'est une démarche beaucoup plus globale que le végétalisme, donc qui englobe le végétalisme, puisque le végétalisme, c'est sur l'alimentaire. Mais le véganisme, ça, c'est au quotidien. C'est évidemment l'alimentaire, mais c'est également les vêtements. Et les accessoires, ce sont également les loisirs, tout ce qui est du domaine de la santé, des cosmétiques, produits d'hygiène et d'entretien. Donc à aucun moment dans la chaîne, que ce soit de production, de fabrication ou autre, un vegan ne va consommer par exemple des produits, enfin un gel douche, je cherche des noms mais je ne devrais pas en dire.
Oh bah oui, monsieur. Et le véganisme, ça vient d'où? C'est des camps, ça vient d'où ça?
je sais pas trop, parce que à la base vegan, donc c'est un terme anglais.
Ouais.
Donc en fait en anglais il n'y a pas la distinction entre végétalien et vegan. C'est en français où on s'est réapproprié le terme vegan et on en a fait un espèce de super végétalien, pour reprendre ton expression. Mais de base il n'existait pas le terme.
Et je vais revenir sur le régime alimentaire. Quand on est végétalien, on fait pas n'importe quoi quand même. Il y a des compléments nutritifs. Si on mange que de la salade, je sais que notre corps ne la digère pas, la salade. Oui. C'est pour ça qu'on a
pas plusieurs estomacs. Ce serait de manger que de la salade d'ailleurs. La saveur c'est quelque chose d'important, l'équilibre alimentaire également. Normalement, pour être en bonne santé, vous avez besoin d'une base de céréales, de légumineuses, que vous allez associer dans votre organisme pour faire des acides aminés, enfin vous casser des protéines. D'ailleurs, notre corps, que ce soit des protéines animales ou végétales, peu importe, il s'en fiche, lui, il nous faut de la protéine, donc il va casser, qui va réassocier pour faire des acides aminés qui vont nous permettre de nous construire et de fonctionner. Donc cette base-là, donc céréales, légumineuses, d'ailleurs dans toutes les gastronomies du monde, on a cette base-là. Prenez un couscous par exemple, vous avez de la semoule et des pois chiches, céréales légumineuses, donc c'est une base invariable. Évidemment, beaucoup de légumes et fruits pour les vitamines, sels minéraux, il nous faut des lipides également avec les huiles et des sucres lents, donc pour avoir de l'énergie. Donc tout ce qui est dans la nature est prévu pour notre fonctionnement. D'ailleurs, on ne peut pas imaginer que nous serions les seuls animaux qui n'auraient pas à disposition de quoi nous nourrir correctement. Donc la base est là. Et on n'a pas besoin de viande pour être en bonne santé. C'est même le contraire d'ailleurs.
Et si je vous parle d'insectes, par exemple, on parle...
Ça c'est pareil, vous faites du spécisme, parce que c'est parce qu'ils ont des sales gueules avec des yeux et puis des mandibules.
On en parle comme une solution...
Et qu'ils ne parlent pas comme nous, vous voulez les bouffer.
On en parle comme une solution d'avenir pour produire des protéines animales.
Le végétalisme, c'est la réponse à la fin dans le monde.
Pour faire un kilo de protéines animales, il faut 20 kilos de protéines végétales pour certains. Pour les insectes,
pourquoi? Pourquoi ils n'auraient pas droit à la vie aussi, finalement?
Ils parlent pas comme nous, les insectes. Ils parlent pas comme nous. Ils ont des
yeux. Il y en a aucun qui parle comme nous.
Ils ont des mandibules. Jean-Loup n'aime pas les insectes.
Ah, mais ça me prend.
Allez, on se met un petit défi, on continue notre, vous aimez pas le lait, j'ai bien senti tout à l'heure.
Si, moi, je bois du lait. Mais comment du lait chez moi? Parce que je bois du lait, je vais aller flinguer les montres religieuses de mon jardin.
En fait, vous buvez du lait à travers le chocolat au lait que vous mangez.
Ah, ne me parlez pas de sucre, de chocolat.
Un bon rôti de porc plutôt que...
Le chocolatisme. Alors, je suis chocolatiste. Je suis chocolatiste.
Allez, c'est parti.
Ouais, c'est un peu le chocolat.
I'm a big fan of this rock.
head the fool to rot. I'm raised to sleep, feel good, give me the shout. Give me the fist, stick the disc, cross the fist, choosing the list. There's no risk, everywhere that exists, exist. To have a nice big leg and say, say. This shark, I saved my poor life, cause I killed this frog. I'm making me blind, ain't got no warning, ain't got no time. What do you think of my rhyme? Mr. French, you see, you decide I'm just a poor, cause you see, addicta. Well, I decide to hide, cause I was a big fan.
Larsen.
Ça, non, mais c'est le disque, c'est le disque qui finit
c'est
comme ça.
C'est le disque, c'est ça. Ouais, ça
non,
c'est
moi je dis que ça va bien. Enfin, une programmation péchue qui ne ressemble pas à un salon de thé dont on ne se rappelle même plus des morceaux parce que ça fait 15 jours qu'on les avait programmés.
M'empêche.
Pour notre ami Ploum. Je rappelle que nous sommes toujours en compagnie de Karine et Elodie, que nous parlons toujours justement de d'animalisme, de végétalisme et de véganisme même. Et justement, Elodie faisait remarquer que ce serait quand même peut-être bien qu'on rappelle de la raison pour laquelle elles sont là, à savoir les animaux. Bref, en cette veille de Noël, puisque c'est veille de Noël, est-ce que vous connaissez un petit peu l'amplitude du génocide qui va se perpétuer, notamment en France, parce qu'en France, on est quand même sacrément des viandards.
Alors effectivement, on peut parler de génocide. Hein, c'est certainement le plus grand génocide de l'histoire. Noël, c'est une vitrine spéciale où on prend conscience que du caviar, en passant par le foie gras, au saumon, à la dinde, et j'en passe, et des meilleurs. C'est là qu'on mesure l'ampleur de l'extermination qu'on fait sur les animaux. Alors heureusement, on les fait se reproduire, comme ça c'est une manne perpétuelle, mais c'est toute l'année. Et les chiffres, c'est
chaque année, entre 50 et 60 milliards d'animaux terrestres qui sont tués dans le monde, donc dans le monde occidental hein, principalement. Et les animaux marins, en fait, on les compte pas. Et donc c'est en milliards de tonnes, mais on ne sait pas bien combien.
Ah oui, c'est en poids. C'est plus en nombre de vies, c'est en poids.
Et donc...
Ah ouais, ça calme, hein, 60 milliards d'animaux terrestres, et pour les bestioles, c'est en poids. Les animaux,
pour
les
certains,
poissons.
Oui.
Alors donc, à l'origine aussi, le trek parlait des animaux des cirques. Alors qu'est-ce que vous avez...
Alors revenons au trek, ouais. Justement. Ce fameux trek nous a permis de vous rencontrer, à savoir que vous meniez une action contre les traitements faits aux animaux de cirque. Alors est-ce qu'on peut en parler de ça un petit peu?
Alors en fait, donc on manifestait cette fois-là devant un cirque. Pas contre un cirque en particulier, mais bien contre les cirques qui détiennent des animaux. Quelle que soit leur espèce, parce qu'on n'est pas spéciste, donc que ce soit des animaux sauvages ou des chiens qui font des tours ou peu importe.
Même les montreurs de puces.
J'hésite, mais je dirais quand même. voilà, c'est tout simplement l'utilisation des animaux en tant qu'objet de spectacle dans des buts commerciaux. Mmh. Donc voilà, avec des conditions de vie souvent déplorable. Donc des lions dans des cages qui transitent à travers le pays ou tout ça. Il y a plusieurs villes en France déjà qui interdisent que des cirques avec des animaux viennent en fait représenter. Il y a aussi plusieurs pays dans le monde qui ont complètement interdit les cirques avec tous les animaux. Et après il y a d'autres pays avec des législations un peu locales, donc soit pas d'animaux sauvages, soit pas d'animaux qui ont été capturés. Ou...
Alors des exemples justement de pays qui ont banni les animaux dans les cirques, alors en Europe, il y en a
En attendant qu'Elodie elle
sur
trouve...
l'information, c'est vrai que...
Ce qui m'étonne quand même, c'est qu'au niveau de la... Puisqu'on parlait de législation... En France, alors je ne sais plus quelle loi ou quel article précisément, mais qui dit que normalement les animaux ne doivent pas être transportés d'une ville à une autre parce que ça ne respecte pas leurs besoins physiologiques. Donc, sachant que la plupart des cirques avec animaux sont des cirques itinérants, à part le cirque Bouglione à Paris. Donc déjà là, on est sur une contradiction entre ce que la loi dit comme étant une exigence du bien-être animal et la réalité. Et qu'on s'entende clairement, on n'est pas contre le cirque. Je trouve ça magnifique, des artistes qui font des prouesses.
Mais quand même, on est des animaux. Et là, on exploite l'animal par...
On choisit de faire du cirque quand on est un acrobate, quand on est un jongleur, quand on est un trapéziste. Et j'imagine, c'est une passion et c'est une belle passion. Il y a des cirques magnifiques, cirque du soleil, cirque plume, j'en passe, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais rendre captif un animal, alors qu'il soit arraché à son milieu naturel, s'il est sauvage, ou reproduit en captivité, c'est une vie de misère, entre des barreaux. Il y a des comportements stéréotypés, de balancement de tête pour les éléphants. On leur fait faire des tours qui ne sont pas du tout naturels, avec des problèmes de hanches. Il faut savoir aussi que le dressage des fauves, c'est avec de la contrainte, avec des bâtons, souvent avec des pics. Donc c'est... c'est de la maltraitance. Et après, il y a, peut-être une, l'animal qui se met en conformité avec ce que le dresseur lui demande, mais c'est parce que ça a été inculqué par la force et par la soumission.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même une évolution à ce niveau-là? On voit de moins en moins de cirques avec des animaux, on voit même à la télé, on voit de moins en moins d'animaux, ou alors ça reste toujours aussi populaire, j'en sais rien.
Ou est-ce que le dressage est forcément constitué par une espèce de cassage de caractère de l'animal?
Non, enfin, d'abord, est-ce qu'il y a d'abord et après? Non, c'est pas tout à fait la même chose.
Alors, c'est vrai que la législation avance un peu. Donc, quand il y a des interdictions locales dans les villes, c'est souvent suite à des actions militantes avec des revendications donc à la mairie ou ce genre de choses, donc pour demander à ce que les cirques avec animaux ne soient plus, ne puissent plus se représenter dans la commune. Donc, en Europe, on disait, on a la Grèce qui a interdit tous les animaux dans les cirques.
Puis ils ont mangé.
C'est pour rien d'autre.
Puis la misère.
Mais presque tous les pays européens, en fait, interdisent les animaux sauvages, déjà.
D'accord. Donc après, et nous, en France, par contre, on serait un peu retardataire là-dessus.
En France, on est retardataire sur à peu près tous les sujets, que ce soit les tests cosmétiques, le foie gras, enfin absolument tout.
Alors justement, donc, les tests cosmétiques, on parle d'exploitation des animaux, il y a les cirques, comment... Et pour revenir à la question de Jean-Louis, est-ce que c'est possible d'envisager une forme de dressage, avec pas forcément des animaux sauvages, des chevaux par exemple, qui soient pas forcément
basés sur...
Je voulais justement répondre à ça, et en même temps dire, est-ce que les gens aujourd'hui vont encore au cirque avec les animaux ou de moins en moins, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience sur le fait que l'animal est un être sentient, c'est-à-dire qu'il peut penser et ressentir, avoir des désirs propres, avoir des envies, avoir une envie de vivre, avoir l'envie de la liberté. Je ne vois pas quel individu qu'on contraindrait à faire quelque chose contre son gré, en quoi ça peut être un plaisir, en quoi ça ne casse pas justement, comme vous disiez, ses besoins fondamentaux. À partir du moment où il y a une contrainte, il y a une obligation, non, c'est pas envisageable.
Est-ce qu'on peut envisager le système qu'on voit souvent dans les océans, vous savez, l'espèce de méduse qui est sur la carapace d'un ermite pour profiter des miettes, etc.
Le poisson pilote avec le requin,
ouais,
ce sont des associations positives.
Est-ce qu'on peut se dire que, par exemple, entre les hommes et les animaux, se crée cette sorte de symbiose aussi, quelque part? Moi, je vois, par exemple, des scènes où on voit le pêcheur chinois qui pêche avec un cormoran. Il y a une sorte de symbiose, parce que le cormoran, il est nourri, certes, il est plus libre, mais après, on voit quand il va pêcher, pouf, il n'est pas lié, il revient quand même vers le pêcheur, il est plus lié, il pourrait s'échapper.
Il y a peut-être des mécanismes, effectivement, d'entraide dans la nature, où chacun profite, comme le poisson pilote avec le requin, chacun est libre, et le fait de son plein gré, a priori, c'est pas le requin qui a obligé le poisson pilote ou autre. Là, en l'occurrence, l'homme est tellement, on le voit, est tellement habitué à dominer les espèces animales, parce que tout simplement, elles sont plus faibles que lui. Donc, il a cette supériorité sur l'animal dont il profite. C'est toujours, pour moi, je vois, une question d'intérêt personnel, en définitive. Après, il y a des relations, des belles relations homme-animal qui peuvent se construire, et on en a tous fait l'expérience, surtout petit, on n'avait pas cette barrière, mais il faut respecter
Et si l'animal. Vous parlez des cirques, je pense que les zoos, c'est dans le même panier pour vous
Ah oui, la femme. Sauf que maintenant on dit il y a une mission de conservation et de réintroduction à la nature. Dans l'intérêt de qui?
Des animaux eux-mêmes ou
oui,
de...
ils sont là pour
de leur espèce souvent. Et valoriser les intérêts de l'espèce, c'est nier les intérêts de l'individu. C'est comme si on nous enfermait sous prétexte qu'il fallait sauver l'humanité. Moi personnellement, je serais pas d'accord.
Par rapport à d'autres sociétés, il y a des sociétés, par contre, je parlais de symbiose tout à l'heure, il y a des tas de sociétés primitives où on consomme des animaux, mais certes... il y a une espèce de respect, d'équilibre. Est-ce que, par exemple, par les vieilles sociétés des Indiens des Plaines, etc., où ils ponctionnaient ce qu'il fallait, etc., même ta société dite primitive, entre guillemets, où on ne ponctionne que ce dont on a besoin, est-ce que le souci n'est pas venu, il n'y a pas eu une accélération aussi avec l'agriculture industrielle, où on nous a dit, vous allez avoir tous du poulet, vous allez avoir tous du cochon, tous du veau, etc., alors qu'on n'en demandait peut-être pas tant, on demandait après la guerre à manger, on ne demandait peut-être pas à avoir du poulet pic-pic à 2 euros le kilo tout cuit.
Alors déjà, la notion de respect, il faudrait définir ce que c'est. Parce que pour moi, respecter un animal, c'est pas le contraindre et pas le tuer. Donc voilà, ça c'est ma définition du respect. Après, effectivement,
mais
sur
le poulet rôti, c'est vraiment bon. Il y a le petit homme de Carpentras, d'ailleurs.
Ou les croquettes végétaliennes pour les chats, est-ce que c'est une forme de respect pour l'animal?
Ouais, justement, en parlant de
pour
ça,
lequel
derrière la console, on se posait une question. Justement, vous disiez que vous aviez un chat. C'est une forme aussi d'emprisonnement de la bête chez vous, quoi, finalement.
Est-ce qu'on peut peut-être répondre déjà à cette question-là?
Ouais, parce que justement, on a plein de questions.
Il y a plein de sujets, effectivement.
Non, mais ils font tout le temps.
Alors qu'on leur demande rien.
Allez-y.
Alors, la question des sociétés primaires, pour pas dire primitives, ouais, parce que c'est souvent une connotation péjorative. Moi, je suis pas dans la jungle, donc je me permettrai pas de parler en leur nom. Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a peut-être, il n'y a pas une exagération de l'exploitation des animaux. Il n'y a pas la construction d'un système qui fait se reproduire des animaux pour pouvoir les consommer et les asservir. Donc ça, déjà, c'est évidemment que c'est beaucoup plus choquant à notre niveau. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, c'est vivre et laisser vivre, sachant qu'on peut, en tout cas dans notre contexte à nous, très bien vivre en ne massacrant pas des animaux. On n'en a pas besoin. On peut vivre à côté si on veut, mais on n'a pas besoin de les exploiter.
Et est-ce qu'il n'y a pas une évolution aussi des mentalités, c'est-à-dire une sensibilité de pays de riches, quelque part, dans le sens, moi, si je racontais à ma arrière-grand-mère que j'achète des boîtes pour mon chat qui dort dans mon lit, elle va se retourner dans sa tombe. Moi, autant elle aimait bien les chats, mon arrière-grand-mère qui n'est plus là, parce que le chat avait une place précise, et puis le chat, il se démerdait, il était hors de question qu'il dorme dans le lit des chats et lui donner à bouffer, tout simplement.
La question animale serait une question de pays de riches et l'Inde.
C'est-à-dire une sensibilité quelque part où on fait les chats aujourd'hui. Alors qu'il y a 50 ans, 60 ans, les chats ils se démerdaient quoi.
Animaux domestiques peut-être. Pour les autres animaux. Parce qu'en fait, on répartit les animaux en fonction de ce qui nous apporte de l'intérêt. Donc les animaux de compagnie, ils nous donnent la compagnie. Les animaux de boucherie, donc c'est pour les manger. Il y a les animaux. On les répartit tous dans des petites catégories comme ça en fonction de ce qu'ils nous apportent. Et puis les autres, c'est les nuisibles qu'on peut exterminer. Donc effectivement, pour les animaux de compagnie, on les traite mieux. On les traite différemment par rapport à avant où on leur accorde plus d'intérêt. Par contre, pour les animaux de consommation, de loisirs ou quoi que ce soit, c'est carrément pire.
Mais d'ailleurs, je suis pas personnellement pour les animaux de compagnie. Je trouve qu'il y a des excès et des déviances aussi. La preuve, on fait se reproduire des animaux, on les laisse tout du moins parce qu'on les stérilise pas. Il y a plein de chats, chiens et autres animaux type NAC qui saturent les refuges et les associations. Et les gens, effectivement, accordent une place à ces animaux-là qui remplaceraient presque des membres de la famille. Évidemment, c'est évident qu'on peut avoir des relations d'empathie, de compassion et des vrais dialogues avec d'autres espèces animales que la nôtre. Mais il y a un excès d'un côté et de l'autre côté des animaux qui sont complètement dépersonnalisés. On a un traitement aseptisé dans des laboratoires et des industries de la viande et on ne fait pas le lien entre le morceau de viande qu'on a dans notre assiette et le cochon dans la nature.
Justement, il y a une évolution. Je pense qu'à l'époque de nos grands-parents, même de nos parents, on tuait le cochon avec tout l'horreur que ça pouvait avoir. On l'égorgeait dans le coin de la ferme. Puis maintenant, la mort, elle est sous
on ne la voit plus, surtout.
On ne la voit plus.
On la voit plus, donc on peut l'accepter.
Elle nous choque plus.
On peut l'accepter. Moi, je me rappelle que ma maman, qui habitait dans une ferme, avait l'autorisation, et c'est là, je vous parle d'un truc dans les années 40, ça ne rajeunit pas. Et donc, du coup, me disait qu'elle avait le droit de quitter la ferme quand on tuait le cochon, parce qu'elle dit que c'était toujours épouvantable. Mais encore une fois, on tuait un ou deux cochons, quoi. C'était pas ce à quoi on assiste aujourd'hui, où effectivement, comme vous le faites bien de le souligner, Jean-Loup, on est peinard, parce qu'on le voit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'achète mon pot de rillettes, je peux même avoir un dessin rigolo, je peux acheter la rillette bio, d'ailleurs. On peut parler de la viande bio, d'ailleurs, tout à l'heure. Est-ce que, par exemple, la viande bio, pour vous, ça a meilleure grâce à vos yeux, ou ça reste encore un problème, ou c'est un non-sens?
Avant de parler du bio, je voudrais réagir sur le fait que, qu'on tue Alphonse ou Jean-Pierre, le prénom peut-être de deux cochons, ou qu'on en tue des masses, pour moi, ça revient même, on a porté atteinte à un animal. Oui, mais c'est vrai que...
bien, mais on les voit plus.
Alors,
sait pas qui c'est.
Voilà. Les abattoirs n'ont pas de vitrine.
Et puis, ils sont tellement nombreux que ça banalise... C'est pas comme le cochon de la ferme, c'est 60 milliards.
Et justement, au-delà, il y a des industriels et des gens du marketing et de la publicité qui sont très doués pour faire des belles publicités avec des belles images mensongères, pour faire passer la pilule, pour vendre leurs produits, parce que c'est, encore une fois, faut pas se leurrer, c'est une recherche de profit. Les animaux sont massacrés pour des questions d'argent. Et les gens donnent l'argent pour qu'on tue des animaux à leur place et qu'on les mette dans des belles boîtes où justement on ne se rendra plus compte qu'il s'agit d'être vivant et sensible.
Le goût.
Voilà. Alors après, la saveur, on la retrouve évidemment, ça se désapprend parce que moi j'ai eu une culture d'alimentation omnivore qui incluait des produits carnés. J'adorais ça, je l'avoue. C'était une question de goût, mais le goût ne justifie pas tout. Et on le retrouve après, on désapprend à aimer un goût en fait de chair morte pour aimer des choses
c'est
plus
vivantes. C'est sûr que si on dit chair morte, moi si je vous empêchais de me voler mon chocolat, si je vous empêchais de me voler mon chocolat, je vous dirais ne touchez pas mon chocolat de nuit.
Ou la sueur.
Chocolat de nuit, c'est un peu dégueulasse comme expression.
Mais la réalité a des mots qui choquent un peu des
c'est
fois
ça,
les
oreilles.
C'est ça
la magie de la langue française. Et donc quand si je dis au môme, touchez pas mon chocolat de nuit, ça les dégoûte.
Et pour le bio, effectivement, il y a des conditions un peu meilleures sur l'environnement. L'alimentation va être bio. Il n'y aura pas des antibiotiques systématiquement, mais on fera appel plutôt à de la prévention. Mais en définitive, l'animal, il est tué.
Ouais,
et puis,
dans le même abattoir.
Le lait bio, le veau est quand même... Pour faire du lait, il faut une vache. D'accord ? Et il faut qu'elle ait un enfant pour ça. Il faut qu'elle ait un petit. Mmh. Et... On fait du lait. Donc, bien sûr, déjà, il y a viol de l'animal, puisqu'il y a insémination artificielle régulièrement. Croyez pas que la vache, elle rencontre gaiement le taureau dans les prés, hein. Ça se passe pas comme ça.
Elle est en chaleur, c'est même pas ce qui lui arrive.
Souvent, on excite d'ailleurs les taureaux avec des mâles, pour que ça aille plus vite. Vous voyez? Donc, comme quoi, après. Et donc, le veau, qu'est-ce qu'il devient après? Pourquoi vous pensez qu'on fait des pubs manger du veau? Ou alors que dans les pâtés pour chiens et pour chats, on retrouve de plus en plus de veau? Parce que justement, l'industrie laitière, même bio, elle va produire ces déchets qui sont des animaux vivants.
Et si je vous parle d'expérimentation animale au niveau des médicaments, etc., c'est pire.
On s'écoute un petit dix d'ailleurs, et puis un petit dix, et puis justement on embrayera sur l'expérimentation.
Je sais pas, sur les rats, les souris, pour sauver des hommes.
Allez, encore un morceau.
Ou même des animaux, tout simplement.
Encore un morceau que j'emmènerais bien pour une fin du monde, un vieux, vieux, vieux morceau. Vous allez me dire, quelle est l'interprétation d'ailleurs?
1 minute 10, 1 minute 20.
Oh, non, un peu plus long.
Ah!
Alors dites-moi qui interprète cette version-là.
Bah, attendez, j'écoute, peut-être.
Parce que si on a du retour.
Oh yeah, everything's gonna be all right this morning. Got a little woman, she ain't very tall. She likes to love me, the best of all. She's my woman, my all in all. She's my lover and my ball. We roll around, have a lot of fun. She whispers in my ear and says, you're the one. Said, oh yeah, said, oh yeah, said, oh yeah, oh yeah. Picked up the telephone to call the party home, saying, hey little boy, won't you leave my daughter alone? Said, oh yeah, said, oh yeah, said, oh yeah, baby. Your temperature's running hot. You don't know, baby, just what you've got. Said, oh yeah, said, oh yeah, said, oh yeah, 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 we roll around, have a lot of fun. She whispers in my ear and says, you're the one. Said, oh yeah, said, oh yeah, said, oh yeah.
Nous étions pas en train de parler des chats et je voulais parler justement de l'expérimentation animale. Alors vous êtes forcément contre, je pense.
Voilà.
Bah oui.
Bravo, gagné. Rejouez avec nous.
On peut sauver.
Grâce à reçu une asso d'ailleurs, une asso de. Mais par contre, c'était une asso de médecins.
Ils ont foutu les animaux.
Ils s'en foutaient les animaux. C'était pas des animaux.
C'était pas fiable.
Ils disaient que c'était absolument pas fiable en fait. En plus, en plus d'être cruel, c'était pas fiable du tout.
Exact. C'est scandaleux parce que c'est une médecine, c'est archaïque et c'est dangereux. C'est archaïque parce que maintenant il existe des moyens de substitution, la modélisation par ordinateur, la culture sur cellules synthétiques et même d'autres techniques.
Pourquoi on continue à le faire alors ?
Et en plus, c'est dangereux parce que quand c'est une expérimentation sur l'animal, même si il nous ressemble à 99,9%, le peu de différence peut générer justement des différences dans les résultats. Sachant aussi que les animaux, quand ils sont dans les laboratoires, ils ne sont pas dans leurs conditions normales. Ils sont soumis au stress, à la peur, séparés d'un groupe social. Donc les résultats qu'on peut avoir, on sait bien que entre les émotions et le métabolisme, il y a des interactions. Donc tout ça, c'est non seulement inutile, dangereux et cruel pour l'animal.
Vous saviez que c'était pour ça qu'on avait arrêté une des raisons pour laquelle on utilise peu de lapins. Vous savez pourquoi ?
Ça coûte cher ?
Non, il meurt de peur. Le lapin est un animal hyper trouillard. Et la vue de la blouse blanche, pouf ! Le lapin, il pète un câble et il mourait. Et on a renoncé au lapin. C'est dommage parce que le lapin prolifère et ça aurait été un excellent animal de laboratoire. Sauf que, il est trop... La pauvre bête, elle est morte de trouille et pouf, elle meurt. Mais... Et puis, quand on lui met des électrodes et tout, il aime pas.
Les laboratoires ne doivent pas être au courant parce qu'ils en utilisent beaucoup. Sur les cosmétiques, pour le tabac, par exemple.
Pour les cosmétiques, peut-être, mais pour les recherches de santé, pouf.
Sur le tabac, top. Par exemple, puisqu'ils n'ont pas de paupières rétractiles, donc on leur balance la fumée de plusieurs cigarettes en même temps pour voir l'effet sur les muqueuses. Donc, ça a beau être un animal craintif, il est quand même utilisé les primates, les singes, les chiens, les chats.
Et là, à cette approche de Noël, est-ce qu'il y a des choses qui vous révoltent ? Je sais pas moi, le foie gras, ce genre de...
Alors justement, le foie gras, j'ai vu une militante qui a manifesté à Paris et comment avec d'autres militants animalistes, je suppose. Et il y a eu des cérémonies des séances de gavage où on a justement gavé. Vous êtes au courant de ça ?
Oui. Je voulais juste sur la question de la vivisection et l'expérimentation animale. Il y a un site très bien qui a été fait par des chercheurs du CNRS et qui s'appelle antidoteeurope.org. Comme c'est un sujet quand même assez complexe, la recherche scientifique, la recherche médicale, j'incite les gens à aller se renseigner sur ce site.
On mettra le lien sur le blog tout de suite après l'émission.
Je note. Alors justement, sur cette histoire dont je parlais tout à l'heure, je ne sais plus de quoi je parlais d'ailleurs.
Du gavage. Le gavage.
Ouais. Alors le gavage, justement, moi... Je sais pas, j'ai toujours découvert des histoires de foie gras aux alentours de Noël. Depuis, je ne sais pas, aurais-je pris du poids ou aurais-je le foie un peu plus fragile ?
Vous avez trop mangé, je crois.
Ouais, la mention même de foie gras me fout des frissons et me dégoûte à l'avance. Mais n'y voyez pas là aucun discours militant, ni, dans le souci de vous plaire, mais tout simplement de profond dégoût, parce que peut-être d'écœurement. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que c'est que le gavage, justement ?
Alors en fait, pour produire du foie gras, il faut donc gaver le canard pendant plusieurs semaines. Il est gavé, donc je sais plus exactement quelle quantité il ingurgite, mais on peut trouver les informations facilement sur Stop Gavage, par exemple, sur Internet. Et donc, il est enfermé dans des cages, il est confiné de manière à ne pas pouvoir bouger. On lui introduit un énorme tuyau métallique dans la gorge pour faire passer la nourriture directement dans l'estomac.
Un tube de métal de 25 cm.
Voilà.
Et ça leur fait mal, en fait, d'après les... Ils disent que non.
Des fois, ils ressortent ensanglantés, les tubes.
Vous l'essayez ?
Il y a un truc qui est rigolo, c'est qu'on pensait que... J'en ai discuté avec un éleveur de canards et d'oies, un jour que je passais quelques vacances, un week-end dans le Périgord, ce paysan... me disait qu'il avait pris un canard et il l'avait gavé. Il l'avait gavé. Puis pouf, il avait chopé une au hasard et l'avait mis de côté. Et il voulait savoir si elle allait mourir parce qu'on disait justement que à partir du moment où on les gavait, elles allaient forcément mourir. Qu'il fallait de toute façon les buter, ça ne servait plus à rien les garder. Et en fait, elle a survécu. Et elle aurait la capacité, en fait, de se soigner de cette une cirrhose du foie, ni plus ni moins. En fait,
c'est une stéatose, en fait. C'est une stéatose du foie. Donc, c'est un foie malade, éclaté. Quand vous voyez, d'ailleurs, les photos d'un animal ouvert, ça fait presque la taille de l'animal en lui-même. Donc, c'est...
Le foie?
Oui, c'est énorme. Et normalement, les oies, quand elles font des migrations, elles s'auto-gavent. Elles prennent plein de nourriture parce qu'elles doivent tenir justement sur cette migration très
longue.
Donc,
c'est un truc qu'on a piqué dans la nature, qu'on avait découvert dans la nature.
Oui, mais sauf qu'on l'a perverti parce que autant l'oiseau, c'est nécessaire pour lui pour faire tout ce voyage, pour avoir ses réserves et qu'il épuise au fur et à mesure. Là, vous avez un animal qui est dans une cage, qui ne peut pas se retourner, qui ne peut pas battre des ailes et donc qui va forcément engranger toute cette nourriture qui est mise en plus de force. Donc c'est il y a 75% des canards de batterie déjà, donc le Périgord avec le paysan, c'est carrément anecdotique maintenant. En plus, c'est 82 millions de canetons par an et 700 000 oiseaux. Donc on voit bien la dimension industrielle que ça prend. Donc c'est pas du tout, c'est 30 millions en France, hein, c'est ça. Donc c'est pas du tout naturel. Et je défie quiconque regarderait une séance de gavage de trouver ça naturel.
Et est-ce qu'il y a des pays aussi, je sais pas, quand on voit souvent les documentaires sur la condition animale en Chine, entre, vous savez, la moumoute qui était faite en poil de chat, soi-disant en poil de lapin, mais en poil de chat, où on débouillante les chats vivants.
Est-ce qu'il y en a des pires que nous, pour résumer? Non, mais parce que vous disiez tout à l'heure que la France était en bas de peloton pour tout ce qui concerne la condition animale. Est-ce qu'il y en a des pires?
Alors déjà, c'est très facile de regarder chez le voisin ce qui va pas. Ça nous arrange, on fait ça souvent.
Il aime pas trop les Chinois. Il aime pas les insectes, il aime pas les Chinois.
Mais effectivement, culturellement, il y a des pays qui ont un rapport différent à l'animal. On peut dire là-bas, en Asie, ils mangent du chien, nous on mange du cochon. Quelle est la différence?
Ils mangent aussi du cochon.
Non, mais je prends exemple parce qu'on est en Bretagne et qu'il y a un élevage porcin qui est quand même assez phénoménal. Donc il y a de la maltraitance sur les animaux partout. Après, il y a quelques peuples comme assez religieux comme les Jaïns ou comme les Bishnoïs qui accordent une vraie place, un respect.
Où ça?
En Inde. Je crois que les Bishnoïs, c'est Rajasthan, il me semble. Voilà. Mais sinon, après, en France, effectivement, c'est terrible, le pays des droits de l'homme, il serait temps que ce soit aussi le droit de l'animal. On est, par exemple, on détient le record de l'abandon. En France, c'est une forme de maltraitance de l'animal. On a une gastronomie culinaire qui est à base de produits carnés pour la plupart. Donc, moi, je sais pas, regardons déjà à côté de chez nous.
Mais... je vais rebondir, vous avez entendu parler des chiens qui avaient été enfermés dans la voiture de leur propriétaire, ça vous dit quelque chose?
Oui.
Que les chiens avaient été retirés par chenil service et que finalement il y en a un qui est mort 10 jours après. Quoi,
au chenil.
Vous êtes au courant de cette histoire-là?
Oui,
Qu'est-ce qui s'est passé là
J'ai suivi l'actualité comme vous, mais oui, effectivement, il y avait des...
On accusait en fait cette femme-là qui pouvait pas héberger ses gros chiens dans son appartement de maltraitance puisqu'elle les a renfermés dans sa voiture. Donc, chenil service, c'est pas l'SPA, chenil service s'en est occupé en fait.
Une fourrière.
Et dès qu'elle a récupéré assez de pognon pour récupérer ses chiens, c'est-à-dire 10 jours ou 12 jours après,
10 jours.
Un était mort et l'autre était dans un état de
désintégration. Il y en a un qui est mort sur la route en fait, apparemment, quand elle l'a ramené et l'autre. Mais c'est vrai que à chenil service, passer une fourrière.
Ouais, mais pourtant,
ils sont pas là pour soigner les animaux, ils sont là pour les détenir le temps que la ville leur ordonne. Alors que,
mais là, je rentre dans un autre débat. Pourquoi la ville ne fait pas un truc avec la SPA, simplement qu'avec
sur cette histoire-là, je pense qu'il y a une histoire de co-responsabilité d'une propriétaire d'animaux qui était certes en difficulté, mais après peut-être qu'il existait des solutions. Et un passage dans une fourrière où c'est pas le premier animal qui ressort et qui serait soit malade, soit en danger de mort. La mairie, en fait, elle sous-traite
mais c'est
un service,
privé, ça, ouais.
Un service qui est privé. Elle n'a pas d'ailleurs droit de regard sur le paiement des droits de fourrière. Et elle sous-traite. C'est aussi la fourrière qui débarrasse la voirie, par exemple, des animaux morts. Et qui fait le ramassage en fourrière. Là-bas, les animaux arrivent. Et il faut savoir que normalement, s'ils ne retrouvent pas le propriétaire, ils doivent normalement trouver un refuge ou une SPA. Mais vous voyez que les refuges sont saturés. Donc, au bout d'un moment, soit les animaux sont euthanasiés.
Soit ils ne sont pas adoptables.
Voilà. Donc, on est dans cette problématique où justement, le fait de ne pas stériliser un animal domestique, c'est irresponsable, d'une part, et ça crée des populations d'animaux malheureuses et en détresse.
Mais là, je vais vous poser encore une question botte banane, mais c'est contre nature de stériliser, même je suis parfaitement d'accord avec cette démarche-là. Ouais.
Mais c'est contre nature de laisser se reproduire des animaux qu'on a domestiqués. Dans un chat dans la nature, ça vit pas plus de 4 ans, à peu près.
C'est ça, ouais.
Un animal sauvage ou un raie. Donc là, on a des animaux qu'on nourrit, qu'on soigne. Donc forcément, l'espérance de vie, elle est plus longue. On les fait se reproduire aussi, il y a des élevages. Donc on crée une population artificielle. Donc à un moment donné, si on fait ça, il faut qu'on assume le fait qu'il faut cesser ça. C'est-à-dire que c'est pas je crée une population et ça va être exponentiel et après on ne gère plus les dégâts, les conséquences que ça occasionne. Après, effectivement, c'est pas un geste naturel de stériliser, mais c'est pas un geste naturel non plus de créer des populations.
Mais il y a beaucoup de pays, je sais pas, quand on va au Maroc, par exemple, ou en Italie, vous avez été en Italie, mais où les chats, ils se démerdent.
Je parle pas du Maroc, en Italie, où effectivement, c'est un peu plus pervers, parce que, comment dirais-je, on va nourrir les gens du quartier aiment bien les chats, ils nourrissent les chats, ils mettent des tas de gamins dans les rues, mais il y a des chats errants partout, qui ont le coryza, la morvonée, c'est une véritable catastrophe. Par contre, petite question plus générale, est-ce qu'il y a des bestioles dont on a reconnu sa statue? Est-ce qu'il y a des bestioles qui commencent à s'en sortir? Est-ce qu'il y a des bestioles dont on considère effectivement qu'on leur a fait un petit peu trop de misère?
Les hommes. Mais de par le monde encore, il y a de l'exploitation et de la discrimination.
C'est vrai, déjà.
Entre nous, de la même espèce, c'est ce qu'on appelle des valeurs humanistes. Encore faudrait-il qu'elle soit appliquée, par exemple, aux enfants. Voilà, après, on rentre dans d'autres débats, mais il faut élargir ces valeurs-là à non seulement tous les membres de la population humaine, mais aussi aux autres espèces. Je suis pas sûre qu'il y ait vraiment, à part les animaux domestiques, mais là, encore une fois, il y a de la maltraitance aussi sur les animaux domestiques.
Même si, est-ce qu'on a reconnu un statut? On parlait d'égalité de droit, reconnaissance d'un droit pour les animaux.
De l'animal, oui.
Est-ce qu'il y a un statut pour l'animal, par exemple? Je sais que on va augmenter la dimension des cages. Ça a été pénible pour obtenir une augmentation de la taille des cages dans les élevages, etc. Est-ce qu'il y a des progrès à ce niveau-là?
Alors, il y a heureusement des progrès, et notamment avec l'agriculture bio, on en parlait tout à l'heure, mais c'est ce qu'on appelle du welfarisme, c'est-à-dire un mieux-être pour les animaux. Et nous, on est sur une position abolitionniste, c'est-à-dire que un animal en captivité, mieux traité, c'est toujours ça, mais c'est pas suffisant.
Et est-ce que, comment dirais-je, on peut pas aussi faire preuve de pragmatisme en disant que la politique des petits pas, plutôt que du jour au lendemain, dire aux gens qu'ils vont devenir végétaliens?
Sont deux stratégies, mais qui peuvent cohabiter, qui peuvent être menées en parallèle. Nous, on a choisi de faire, de diffuser de l'information à travers des stands et des actions pour informer le public et qu'ainsi chacun, à titre individuel, puisse, à sa mesure, dans son quotidien, prendre des dispositions pour ne pas cautionner la cruauté envers les animaux. Et puis après, ça devient aussi collectif. Votre question, du coup, j'ai oublié votre question.
Oui, mais justement, est-ce que il y a des reconnaissances officielles d'un droit pour les animaux, par exemple, pour les animaux domestiques, est-ce qu'il y a des...
Et à côté de ça, il peut y avoir aussi du lobbying, que j'appellerais du lobbying positif, vers les sénateurs, vers les représentants de l'État, pour que les collectivités, les structures nationales et internationales prennent des dispositions. Mais ça reste vraiment à la marge de ce qui devrait être entrepris, si on veut vraiment traiter les animaux.
Parce que c'est un perdreau de l'année. Mais je vous rappelle que quand j'étais jeune, voire très petit, inimaginable de penser que des gens pourraient être condamnés pour cruauté envers les animaux.
C'est-à-dire empoisonner le chat du voisin, par exemple.
Dans les années 70, votre voisin qui était qui adorait son putain de potager, empoisonnait votre chat sous prétexte que votre chat avait déterré ses semis.
Comme il était inconcevable à un moment donné que l'esclavage des Noirs prenne fin.
Donc là, déjà, il y a eu un progrès à ce niveau-là. On peut être condamné pour cruauté envers les animaux.
Alors, on peut être condamné, malheureusement, c'est rarement le cas, même si une association se constitue partie civile. C'est rare que ça aille au-delà de quelques euros de dommages et intérêts. Là, dans la loi française, l'animal est encore considéré comme un bien meuble. Et donc, nous, on revendique pour une reconnaissance d'un
droit pour
les animaux sensibles. Ouais. Il y a quand même en 2005, il y a le ministre de la Justice, Dominique Perben, qui s'était prononcé pour une réforme du statut juridique de l'animal. Puis à un moment donné, ça a été enterré. Bon, on se demande pas pourquoi. C'est qu'en face, il y a des intérêts financiers, économiques, suffisamment puissants pour que on maintienne bien l'animal esclave au profit de l'homme.
Et avec le changement, c'est maintenant, est-ce qu'il va y avoir du progrès ? Nouveau pouvoir, Élodie qui s'endormait doucement, ploum ploum.
Les poules sont protégées, hein, regardez Rottweiler, comme vous l'appelez là.
Est-ce qu'avec le changement c'est maintenant, il y a, de toute façon on va couper après.
Ouais,
est-ce que le changement c'est maintenant, il y a eu quelques.
Ce serait bien. L'Europe nous met un peu la pression, on met un peu la pression à la France par rapport aux normes, mais c'est toujours insuffisant. Et puis c'est des petits pas, mais on parlait de petits pas, mais là c'est vraiment des très petits pas. Très petit.
On se met un petit 10, il nous restera 2-3 minutes pour se dire au revoir. C'est parti, programmation à Jean-Loup. Bah tiens, un succès, je vous le dédicace parce que je sais que vous aimez bien. C'est parti.
Succès, c'est bien. Shake your head, move your body. Now you got the B-I-N-E-M-C. N-E-M-C.
Direct, il nous reste 2 minutes pour dire au revoir tout simplement. Alors,
oh non.
Ben, si,
on était bien avec vous.
Ben oui, ben vous reviendrez.
C'est un sujet intéressant.
Vous savez pourquoi Jean-Loup est pressé de vous voir partir? C'est parce qu'il doit manger sa tourte au steak de dauphin dès que vous aurez le dos tourné, c'est pour ça.
J'ai arrêté le dauphin, c'est coriace.
Donc, avec des vrais morceaux de dauphin dedans, ça m'étonnerait.
Donc pour vous contacter, vous avez un blog, un site internet, quelque chose qu'on peut retrouver de toute façon sur notre blog à nous?
Alors, on a un blog donc qui s'appelle Collectif Rennais pour les animaux tout collé, .noblog, avec un S, .org. Et on est aussi sur Facebook, donc on peut nous trouver avec les mêmes mots-clés. Et puis,
on a été chassés de Facebook, nous.
Ah.
Oui, parce qu'on n'était pas une personne morale. Enfin,
vous
n'êtes
pas une personne morale non plus.
Non. On est physique, en tout cas, ça c'est sûr.
Mais... Donc, vous pouvez ouvrir des pages. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps.
C'est vrai. Ouais.
Voilà. Et puis, on a aussi un mail où on peut nous contacter. C'est donc animalisterenne, en un seul mot, pas de S à animaliste, animalisterenne@gmail.com.
Bon, on retrouvera tous les contacts sur le blog. Et Grovitch, allez-y. Qu'est-ce qu'on peut retrouver aussi
Sur Android.
Ouais, l'article sur Android.
L'article?
L'article de l'émission de ce soir, ainsi que tous les liens.
Les émissions.
C'est-à-dire qu'on peut télécharger gratuitement une application des Grignoux à Noël, parce que c'est Noël, en fait.
Voilà.
C'est vrai.
Ouais, et c'est Noël.
La fin du monde.
Et ben voilà, sur Android, Play Store, claque, vous tapez les Grignoux, pas de problème.
Et on a les Grignoux.
C'est gratuit.
C'est ça.
Et ben, il faut le dire, tout simplement. Ben écoutez, on vous remercie parce qu'il nous reste une minute pour laisser.
Et la parole à comment, Gom Jabbar. Non, c'est pas Gom
Jabbar. Non, c'est Dub Revolution. Ils ont des têtes de à pas faire de mal aux animaux.
Ils ont pas de tête, ils ont une tête. Une tête.
Par contre, les animaux, je suis sûr qu'ils font pas de mal. Par contre, aux plantes.
C'est les Rastafari. Oh, les Rastafari ne touchent pas aux animaux.
Par contre, les plantes, clac, je pense qu'ils leur coupent la tête, comme ça d'un coup d'insecte.
Allez savoir ce qu'ils font avec les plantes.
Allez savoir des choses pas morales. Allez, on vous dit salut, à bientôt.
Et bonne fin du monde.
Et merci de nous avoir reçus.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.